chant ira très bien après cette lecture. Il y a au début de l'évangile selon Jean, sans doute à destination des anciens disciples de Jean le Baptiste. Vous vous souvenez, Élisabeth avait, pas ma femme, une autre, avait un enfant et il a eu beaucoup de disciples. Et ses disciples ont aussi hésité. « Es-tu celui qui devait venir ?» demandait Jean-Baptiste depuis sa prison à l'égard de Jésus. Et sans doute que ce prologue est destiné à ses disciples pour leur convaincre au sujet de quelque chose qui pour nous est au cœur de notre foi. Nous allons ensemble, je vous propose, lire Jean, l'évangile selon Jean, chapitre 1. Nous allons le lire tranquillement, gentiment, nous laisser pénétrer par le cœur de notre foi. Au commencement était la parole. La parole était auprès de Dieu. La parole était Dieu. Elle était au commencement auprès de Dieu. Tout est venu à l'existence par elle, et rien n'est venu à l'existence sans elle. Ce qui est venu à l'existence en elle était vie, et la lumière était la lumière des humains. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas reçue. Survint un homme envoyé de Dieu du nom de Jean. Il vint comme témoin pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Ce n'est pas lui qui était la lumière. Il venait rendre témoignage à la lumière. La parole était la vraie lumière, celle qui éclaire tout humain. Elle venait dans le monde, elle était dans le monde, et le monde est venu à l'existence par elle, mais le monde ne l'a jamais connue. Elle est venue chez elle, et les siens ne l'ont pas accueillie. Mais à tous ceux, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, à ceux qui mettent leur foi en son nom. Ceux-là sont nés non pas du sang, ni d'une volonté de chair, ni d'une volonté d'homme, mais de Dieu. La parole est devenue chair. Elle a fait sa demeure parmi nous. Et nous avons vu sa gloire, une gloire de Fils unique issu du Père. Elle était pleine de grâce et de vérité. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, « C'était de lui que j'ai dit, celui qui vient derrière moi est passé devant moi, car avant moi il était. » Nous avons en effet de sa plénitude, nous avons tous reçu de grâce pour grâce, car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Personne n'a jamais vu Dieu. Celui qui l'a annoncé, c'est le Dieu Fils unique qui est le Saint du Père. J'aimerais juste vous montrer quelque chose. On ne le voit pas quand on est francophone. Mais quand on aime la poésie hébraïque, il y a quelque chose au cœur de ce passage, je vais vous le montrer. On commence avec la parole de Dieu et on termine avec la parole de Dieu. Ensuite, il est question de la création et de la rédemption. Ensuite, de Dieu s'est fait homme. Dieu s'est fait homme et on l'a vu et on a pigé quelque chose. L'incarnation, ensuite, il est venu dans le monde, la venue dans l'Église. Pour celui qui l'a reçu, pour celui qui a cru. Et il y a au cœur de ce qu'on vient de lire, ce que Jean voulait souligner. Et ce que Jean voulait souligner, c'est au cœur de cette structure en X. Nous ne faisons pas de la poésie comme ça. Mais celui qui sait la poésie hébraïque, il voit ça tout de suite. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur? Je vais vous le montrer. Et je laisse la parole tout de suite après à notre frère qui traitera du thème « Jésus, parole de Dieu ». ça on vient de le lire. Parole même de Dieu, souffle de Dieu, il va nous en parler et il va nous traiter Jésus, parole de Dieu dans le Coran. Son nom de baptême, comme je l'appelle, c'est Amin Fodel. Il nous traite, Amin nous traite de ce passage et il va nous donner des pistes importantes pour notre temps. Le Coran n'était pas encore écrit quand il y avait ces passages extraordinaires. Dieu s'est fait homme. Et voici au cœur de cette structure ce qu'il veut souligner. Qui que tu sois, d'où que tu viennes, quelle que soit la couleur de ta peau et la nature des hémoglobines qui coulent dans tes veines, ceci est vrai. La parole faite homme. La parole faite homme, le logos, faite chair, a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Nous allons chanter ensemble, avant que nous prions encore. Le chant, vous avez trouvé, je pense qu'il est connu, hein ? Alors nous allons le chanter, je vous invite à vous lever pour le chanter. Merci à l'équipe qui nous a conduits dans la prière et l'adoration. Nous prions ensemble. Seigneur, nous te remercions pour l'exposé que nous allons entendre et nous te prions que tu nous aides à dégager quelque part dans tout cela ta voix pour conduire nos chemins. Nous te prions pour l'orateur, que tu le bénisses et le soutiennes et que tu l'aides à nous donner ce qu'il a compris et qui peut nous être utile. Amen.
Bonjour, bonjour à tous et à toutes, et merci d'être là à l'occasion de ce culte. Alors, je vais présenter comment nos frères et nos sœurs musulmans voient le Seigneur. Donc, la naissance de l'islam s'est faite 600 ans après la venue du Seigneur, dans un monde qui était idolâtre et païen. Et l'image que l'islam, à son instauration, a donnée de Jésus, c'est cette image-là que je vais présenter. Alors, je signale tout au début que c'est une image qui va évoluer parce que la prédication de Mahomet, la prédication coranique, a duré 22 ans et nous allons voir l'évolution de la présentation du Seigneur dans l'islam. Au tout début, Jésus est présenté à travers ce verset qui est très important en tant que envoyé de Dieu, sa parole qu'il envoya à Marie et un esprit émanant de lui. Parce que au début, les Juifs attendaient un envoyé que Moïse avait annoncé dans l'Ancien Testament et le Messie. Et dans ce verset, Jésus était à la fois l'envoyé de Dieu et sa parole. Et il est appelé le Messie. Donc, le Coran donne l'impression que Jésus était les trois rassemblés, ces trois personnes attendues par les Juifs. Alors, donc ce terme « parole de Dieu » est utilisé dans le Coran uniquement pour Jésus-Christ. Il n'est utilisé pour aucun autre prophète ou envoyé de Dieu. Et il est répété à plusieurs reprises. Alors, lors de l'Annonciation, le verset du Coran, il dit « Ô Marie, voilà que Dieu t'annonce la bonne nouvelle, une parole émanant de lui. » Son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie, illustre dans ce monde et dans l'au-delà, et il sera parmi les proches de Dieu. Si vous voulez, c'est un terme en arabe qui est réservé à ceux qui sont à la droite de Dieu. Voilà. Alors le troisième verset, c'est comme nous l'avons vu dans le passage de lui ou de Jean, dans le Jean le Baptiste est témoin de la lumière qui va venir. Et là, le Coran rappelle les anges appelèrent Zacharie. Pendant qu'il priait dans le sanctuaire, voilà que Dieu t'annonce la naissance de Jean le Baptiste, qui sera le confirmateur de la parole émanant de Dieu. Donc Jean le Baptiste confirmera la venue de Jésus en tant que parole de Dieu. Et le dernier verset où Jésus est aussi appelé, décrit comme parole de Dieu, c'est dans un chapitre qui est réservé entièrement à Marie. Et puis Jésus s'exprime ainsi, « Dieu a fait que je sois béni où que je me trouve et que le salut est sur moi le jour où je suis né, le jour où je mourrai et le jour où je ressusciterai vivant. » Et la conclusion, tel est Jésus, parole de vérité sur lequel vous avez divergé. Alors cette expression parole de vérité est très très forte dans le Coran parce que en langue arabe, il y a beaucoup de nuances dans les termes. Et pour la vérité, il y a le terme réservé à la vérité de tous les jours, la vérité humaine. Puis il y a un autre terme qui est réservé à la vérité au sens divin, qui signifie à la fois vérité, droit, juste. Et c'est ce terme-là qui est utilisé. Et parole de vérité, ça signifie, tous les exégèses disent que Jésus, ici, est présenté comme la parole de Dieu. Et que sa parole est vérité. Et d'ailleurs, on retrouve cette expression dans l'Évangile. Alors, donc dans toute cette partie de la prédication, si le Coran avait assumé les conséquences de ces affirmations, tout le monde pensait que le Coran allait rejoindre l'Évangile et que Mahomet n'était qu'un prédicateur qui appelait les païens arabes de sortir de l'idolâtrie et de venir à la vraie religion, celle qui a été annoncée dans la descendance du Abraham et qui a été close par Jésus-Christ. Mais dans ce cas, Mahomet n'aurait pas créé une nouvelle religion. Il aurait tout simplement amené les Arabes païens à devenir chrétiens. Mais malheureusement, la réalité ne s'est pas passée comme ça. On verra plus tard. Mais là, avant de passer au changement, on va voir qu'il n'y a pas que le fait que Jésus est annoncé comme la parole de Dieu, il y a aussi la naissance de Jésus. Le verset qui est consacré à la naissance de Jésus, c'est « Et Marie, qui avait préservé sa chasteté, nous insufflâmes en elle de notre esprit » et fîme d'elle ainsi que de son fils un signe miraculeux pour l'univers. Alors, là aussi, il n'y a aucun autre employé ou aucun être à qui ces termes sont employés. Donc l'Esprit a été insufflé en Marie. À la création d'Adam, Dieu a insufflé l'Esprit dans Adam pour lui donner vie. Dans le cas de Jésus, Jésus existait avant. Et l'Esprit a été insufflé en Marie pour que Jésus devienne être humain. Mais il existait avant. Et l'autre mention, donc le Coran précise qu'il n'y a que Jésus et sa mère qui sont purs de tout péché. Alors, quand l'ange vient annoncer à Marie, il dit « Je suis un messager de ton Seigneur pour te faire don d'un fils pur. » Donc, le terme « don », ça veut dire qu'il lui donne, ça signifie ça aussi, ça souligne que Jésus existait avant sa naissance. Et le Fils pur, nous ferons de lui un signe prodigieux pour les hommes et une miséricorde émanant de Dieu. Donc Jésus en lui-même, dans le Coran, il est considéré comme une miséricorde divine. Alors tout cela souligne la nature non humaine et divine de Jésus-Christ, dans ces passages du Coran. Et tous les exégèses musulmans sont unanimes pour dire que Jésus est pur de tout péché ou de tout acte condamnable. Alors l'autre chose, et ça aussi, il n'y a aucun prophète qui est présenté comme ça dans le Coran, Jésus est le seul à être investi par l'Esprit Saint. Un des versets du Coran dit « Parmi les messagers, Dieu a favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Dieu a parlé, comme Moïse. Il en a élevé d'autres en grade. Et à Jésus, fils de Marie, Dieu a apporté les miracles et a été investi de l'Esprit Saint. » Donc l'Esprit Saint signifiant en arabe comme en français l'Esprit de Dieu. Donc. Alors l'autre élément important, c'est que Jésus ne peut pas être approché par le diable, par le démon. Le Coran explique ça que par le fait que la mère de Marie, au moment de la naissance de Marie, la mère de Marie a fait un vœu auprès de Dieu pour que Marie et sa descendance soient protégées, qu'elle la mette sous la protection de Dieu contre Satan, et que Dieu a agréé cette demande. Et ainsi, à la naissance, seule Marie et Jésus sont prêts ne peuvent pas être sous l'emprise de Satan ou touchés par quelque chose qui provient du diable. Alors, le gros problème qui se pose dans l'islam, c'est que Mahomet a été à plusieurs reprises l'objet de choses qui relevaient de rapport avec les esprits, avec les démons, je ne veux pas rentrer dans ces détails, mais il y a surtout le cas des versets que Mahomet a annoncés comme venant de Dieu, et qu'après, il a dit que en fait, ces versets venaient du diable et qu'il a dû les effacer. Donc Mahomet sait que lui-même et admet que lui-même est fauteur et pécheur comme les êtres humains et qu'il n'a pas cette capacité d'être protégé de Satan. Et le Coran, encore aujourd'hui, porte la trace de cette situation. Dans le verset de la sourate 22, il dit, c'est Dieu qui s'adresse pour consoler Mahomet, qui était très triste d'avoir annoncé des paroles de Satan comme étant des paroles de Dieu. Alors il lui dit, avant toi, nous n'avons chargé aucun envoyé en dehors de Jésus ou prophète, sans qu'au moment d'énoncer la parole de Dieu, Satan n'y fasse des suggestions. Et Dieu abroge ce qui a été dicté par Satan. Alors, le Coran, à plusieurs reprises, parle des fautes, des péchés et des fautes lourdes de Mahomet. Donc, Mahomet était considéré comme un être humain à qui le pouvoir de faire des miracles n'a pas été accordé, et comme tout être humain, il a commis des fautes très lourdes et des péchés. Alors, j'ai sélectionné quelques versets où Dieu, le premier verset, c'est « Tout bien qui t'a atteint vient d'Allah, vient de Dieu. Et tout le mal qui t'a atteint vient de toi-même. » Donc, c'est comme si Dieu dit à Mahomet que tu as commis du mal et que ce mal vient de toi. Ça, c'est un verset très, très lourd et très difficile à expliquer dans le cadre du Coran. Ensuite, dans l'autre verset, il dit « Dieu t'a trouvé égaré et il t'a guidé vers le chemin droit ». Autrement dit, si on considère que les premières révélations, Mahomet les a reçues à 40 ans, cela signifie que toute la période où il a vécu dans un milieu païen et idolâtre, il était dans l'égarement. Ensuite, Dieu t'a déchargé d'un fardeau qui accablait ton dos. Donc c'est tout ce fardeau des mauvaises actions. Donc le Coran dit explicitement qu'il fallait enlever ce fardeau qui accablait le dos. Et il continue, implore le pardon pour ton péché, ainsi que pour les croyants et les croyantes, Dieu connaît vos activités. Donc ça, c'est pour le pardon du péché. Il y a trois reprises. Une fois, il lui a pardonné les péchés parce qu'il a combattu dans la voie de Dieu. Ça, c'est le principe du djihad. Nous t'avons accordé une victoire afin que Dieu te pardonne tes péchés passé et futur. Donc, au moment de ce verset, Dieu sait qu'il va encore faire des péchés. Donc, tout cela note un peu le musulman croyant qui apprend le Coran, qui fait des études islamiques. Il est questionné par cette différence entre Jésus et Mahomet. Alors, il y a ce verset qui est aussi troublant. Donc là, il faut se mettre à la place du musulman qui, tout petit, apprend le Coran et avance petit à petit. Alors, dans ce verset, c'est Dieu qui s'adresse à Mahomet et lui dit, « Si tu es en doute sur ce que nous t'avons révélé, interroge ceux qui lisent le livre révélé avant toi, la Torah, les psaumes et l'évangile. » Donc Dieu demande à Mahomet de s'adresser aux chrétiens, aux juifs, pour qu'ils lui expliquent la Torah, les psaumes et l'évangile. Et il lui dit, « La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas de ceux qui doutent. » Donc à ce moment-là, l'évangile, la Torah, les psaumes, la Bible étaient considérés par les musulmans, par Mahomet, comme des livres authentiques, comme la parole de Dieu à laquelle il faut se référer. Et même Dieu, il précise à Mahomet, ne sois pas de ceux qui traitent de mensonges nos révélations. Tu serais alors du nombre des perdants. Donc on voit comment l'islam a évolué. Jusque-là, l'islam était pratiquement considéré comme une forme de christianisme. Alors ensuite, concernant les miracles de Jésus, le Coran cite, Mahomet cite les miracles de Jésus parce que les païens arabes avaient demandé à Mahomet de faire des miracles et les versets qu'il a reçus ont dit que les miracles n'ont pas été donnés à Mahomet. Mais par contre, il rappelle les miracles qui ont été donnés à Jésus. Donc, mais ce qui est intéressant dans ces passages du Coran qui décrivent les miracles de Jésus, c'est de voir quels sont les mots que le Coran utilise pour décrire ces miracles. Alors, pour la résurrection des morts, alors, explicitement, littéralement, le Coran utilise, c'est Jésus qui parle. Il dit, et je suis celui qui donne la vie. Donc Jésus parle aux Juifs et il leur dit, je suis celui qui donne la vie aux morts. Il n'utilise pas le terme ressuscité, mais donner la vie à ceux qui sont morts. Et le Coran précise, seul celui qui les a créés une première fois a le pouvoir de leur redonner la vie. Il a le pouvoir de toute création. Alors ces deux versets posent des problèmes théologiques immenses à l'exégète musulmane. Dans un autre passage, le Coran reprend le récit d'un évangile apocryphe, l'évangile de l'enfance, où cet évangile présente Jésus qui fait des oiseaux d'argile et puis après qui souffle dedans et ils deviennent des oiseaux. Alors le Coran reprend cette anecdote, mais ce qui est intéressant, c'est les termes qui sont utilisés. Alors le Coran utilise le terme « al-khalaq » en arabe, ça veut dire « le créateur ». La racine « khalaqa », c'est la création. Et comme ce qu'on avait dit dans la diapositive avant, donner la vie, donc créer ou donner la vie, ça c'est une caractéristique réservée uniquement à Dieu. Alors dans cet épisode des oiseaux, Jésus dit, je suis celui qui va créer, j'ai mis je, mais en fait littéralement c'est je suis celui qui va créer de l'argile la forme de l'oiseau, puis je souffle dedans et avec la permission de Dieu, il volera et deviendra oiseau vivant. Donc c'est le même processus qu'a utilisé Dieu pour créer Adam. Il a créé d'argile, ensuite il a insufflé en lui la vie et l'être est devenu vivant. Alors, donc, toute cette voilà, c'est ce que j'essaie de montrer, c'est cette évolution. Tout cela a changé une fois que Mahomet a émigré à Médine, que sa première femme est décédée, et à Médine, il est devenu chef de guerre et il a dominé sur toute, il a étendu sa domination sur toute l'Arabie. Alors sa position vis-à-vis des chrétiens et de leur religion a changé complètement. La première chose, Mahomet nie la mort et la résurrection de Jésus. Il dit tout simplement dans le Coran, il dit que ça n'existe pas. Ça n'a pas existé et pour cela, j'ai mis les deux versets, c'est avec deux versets seulement que cette négation de la crucifixion et de la résurrection de Jésus est précisée, sans aucun autre détail. Il y a un verset qui dit « Les Juifs ne l'ont ni tué ni crucifié, mais ce n'était qu'une ressemblance faite à lui. » Alors sur ce verset, il y a beaucoup d'interprétations, de dire que c'est un compagnon de Jésus, c'est une ressemblance, bref, beaucoup, mais c'est le seul verset, sans aucun autre détail, qui annule la croyance en la résurrection. Mais le plus dérangeant, c'est comment Dieu justifie ce fait que Jésus n'a pas été crucifié. Alors le verset dit, les Juifs ont comploté contre Jésus, mais Allah aussi a comploté, et c'est Allah qui est le meilleur des comploteurs. Alors ce verset pose d'énormes problèmes, parce que premièrement les termes, parce qu'il y a un autre verset où Dieu, où Allah appelle, utilise le même mot qu'il est le meilleur des comploteurs. Le grand problème, c'est qu'à travers ce complot, Allah a trompé non seulement les Juifs, mais il a trompé aussi les apôtres et il a trompé des générations de chrétiens qui étaient là. Il a trompé Marie, la mère de Jésus. Et il a fallu attendre 600 ans pour que Mahomet vienne rétablir la vérité. Alors tout cela pose des problèmes insurmontables pour l'exégèse et les théologiens musulmans. Et malheureusement, à la suite, ça ne s'est pas limité uniquement à des problèmes théologiques, mais à la déclaration de guerre aux chrétiens. Parce que cette fois-ci, Mahomet disait que c'était lui, le dernier prophète, qu'il a été annoncé par Jésus. Donc la venue de Mahomet a été annoncée par Jésus, ce qui fait que les chrétiens qui ne croient pas en Mahomet sont devenus des apostats et des... Alors là, il demande de les combattre, combattre ceux qui ne croient pas en Allah et ni en Mahomet, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation de leurs propres mains après s'être humiliés. Ça, c'est le verset qui ordonne le combat contre et la domination des Juifs et des chrétiens. Et il justifie cela en disant, les chrétiens disent, le Christ est fils de Dieu, telle est leur parole provenant de leur bouche, ils imitent la parole des mécréants avec eux, qu'Allah les anéantisse. Alors les exégètes, ils disent qu'en fait par anéantir, il veut dire qu'Allah les maudisse. Et il explique pourquoi, donc tout cela c'est dans le même chapitre, c'est l'un des derniers chapitres qui a été révélé à Mahomet. Alors les chrétiens veulent éteindre la lumière d'Allah, alors que Allah veut parachever sa lumière, quelle répulsion qu'on ait les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager Mahomet avec la bonne direction et la religion des vérités, afin qu'elle triomphe sur toute autre religion. Quelque répulsion qu'on ait ceux qui associent d'autres divinités à Allah. Ça veut dire qu'il parle des chrétiens, parce que pour la compréhension musulmane de la Trinité, l'islam accuse les chrétiens d'adorer trois divinités différentes. Le Père, qui a pris comme épouse Marie, et qui a engendré d'une manière biologique Jésus. Alors, ça, c'est la grande incompréhension entre l'islam et le christianisme. Alors, Mahomet, à la fin de sa vie, il convoque les évêques chrétiens et il leur ordonne de se convertir. Donc ça, c'est pour les régions qu'il a soumises à son pouvoir. Et il leur donne de se convertir au christianisme. Et ces évêques affirment qu'ils gardent leur foi chrétienne et rappellent à Mahomet que le Coran reconnaît que Jésus est le Messie, la parole de Dieu et son esprit insufflé en Marie. Voilà. Alors, devant ces paroles des prêtres et devant ce rappel à ces versets, alors Mahomet revient annule les versets du Coran précédent et parle que c'était des versets équivoques. Dans cette partie du Coran, il dit c'est Allah qui a fait descendre sur Mahomet le Coran. Il s'y trouve des versets explicites qui sont la base du Coran et d'autres versets équivoques. Les égarés mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Dieu. Donc, avec ça, il est revenu sur tous ces versets où Jésus est présenté comme parole de Dieu. Et là, il annule la totalité. Il dit que Jésus est comme Adam, qui a été créé de poussière, puis Dieu lui dit « Sois » et il fut. Alors, avec ce verset, il met Jésus au même titre que Adam. Ça veut dire qu'il est créé d'argile, comme Adam, et de plus qu'il peut avoir péché comme Adam a péché. Et puis à ceux qui le contredisent, alors il y a ce fameux appel il organise une séance de malédiction réciproque qui est ordonné par le Coran lui-même. Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons l'exécration réciproque en appelant la malédiction de Dieu sur les montagnes. Ça, c'était ça venait de l'époque païenne où les gens organisaient ces séances. Alors Mahomet s'est présenté à cette séance de malédiction réciproque, mais les évêques ne sont pas venus et ont expliqué les paroles du Seigneur: aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous persécutent. Alors vous serez fils de votre Père qui est dans les cieux, car il a fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il a fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Soyez donc parfaits comme votre Père céleste est parfait. Et c'est juste après ça que le Mahomet est décédé, quelques mois plus tard. Donc ça, c'est la partie qui concerne le christianisme et l'image que le Coran donne de Jésus-Christ. Et en conclusion, je voudrais lire ce passage. Donc, après avoir étudié l'islam pendant des années en Algérie, j'étais venu à l'âge de 22 ans en Suisse et j'étais venu avec cet immense questionnement sur l'islam donc que j'avais appris depuis ma plus petite enfance. Pour moi, la Suisse et l'Europe étaient des pays chrétiens et j'espérais trouver des réponses à mon questionnement. Je suis infiniment reconnaissant à la Suisse. J'ai reçu des extraordinaires opportunités dans le domaine des connaissances scientifiques. J'ai reçu toute l'aide matérielle et intellectuelle pour mener une carrière scientifique très, très riche. J'ai fait la connaissance d'un milieu scientifique et humain qui m'a accordé un accueil magnifique. La seule chose qui m'avait frappé depuis mon arrivée en Suisse concernait le domaine religieux et spirituel. Contrairement à mon attente, j'ai découvert des peuples européens et un environnement humain qui me semblait entièrement déchristianisé. Il me semblait qu'on n'avait rien à me proposer dans ce domaine du religieux et du spirituel. Bien au contraire, la majorité présentait le christianisme comme une forme d'obscurantisme qui n'avait amené à l'humanité que opposition à la science, inquisition, croisade ou colonialisme. Alors j'ai compris et j'ai constaté que l'Europe n'avait rien à me proposer de mieux que l'islam dans lequel je me trouvais. Et même je constatais qu'il y avait un grand respect pour cette religion qui était considérée comme la religion du pauvre, de l'opprimé et du colonisé. Face à ce discours majoritaire, ceux qui étaient chrétiens étaient invisible ou garder un silence que je n'arrivais pas à comprendre. Dans cette Europe, mon cheminement au christianisme a pris un temps considérable, plus de 40 ans. Et je dois préciser que c'est le Seigneur Jésus-Christ qui m'a amené à lui. C'est lui seul qui m'a montré le chemin et m'a guidé vers sa lumière. Je lui dois tout et je lui exprime mon reconnaissance infinie. Aujourd'hui, je suis chrétien et je remercie ce Seigneur, mais je continue à me questionner sur ce fait qui me paraît incompréhensible. Pour quelles raisons on hésite ou on se gêne d'annoncer et d'enseigner la parole du Seigneur? Il me semble qu'on ne réalise pas à quel point des peuples entiers sur la planète sont privés de cette parole de Jésus-Christ. Des États utilisent toute leur puissance pour élever les barrières matérielles et psychologiques dans un seul but, que la parole du Seigneur ne touche pas le cœur de population entière à travers le monde. Et nous, les chrétiens, on donne l'impression de garder une grande réserve. En dehors des églises, il nous est assez difficile de porter et d'annoncer cette parole du Seigneur. Pourtant, on voit à travers l'actualité la situation dans les pays où les peuples sont privés de cette parole, en particulier dans le monde musulman qui m'est très proche, où tout enseignement de la Bible est interdit. Seul l'islam est enseigné, cet enseignement de l'islam est obligatoire même pour les enfants des petites minorités chrétiennes. Et la parole du Seigneur dans l'Évangile est confinée à l'intérieur des rares églises qui existent, malgré des pressions énormes exercées contre elles. On accepte cela, nous les chrétiens, comme une fatalité, et pourtant la réalité quotidienne montre que la parole du Seigneur est absente, c'est la violence et la haine qui envahit les cœurs. J'ai personnellement l'impression que ce monde, en particulier le monde musulman qui a été privé de l'Évangile, se retrouve comme livré à la violence et à la haine. Tout se passe comme si ce pays était livré au règne du démon avec son cortège de mort, de haine ou de tragédie que l'actualité nous amène quotidiennement. Pour sortir de ce cycle infernal, les États officiels montrent leurs limites et leur puissance. Et pour moi, seule la parole du Seigneur peut changer les cœurs et transformer la haine en amour. En tant que chrétien, il me semble que nous avons le devoir de faire connaître cette parole du Christ à tous les peuples qui en sont privés. Face à la situation qui frappe nos frères et sœurs musulmans, notre devoir de chrétien me fait penser à ce passage de l'Évangile où les apôtres ont été saisis par la peur après avoir vu la transfiguration du Seigneur Jésus-Christ. Il fut transfiguré devant eux, son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements tout blancs comme la lumière. Voici que leur apparurent Moïse et Élie et ils s'entretenaient avec lui. Pierre a alors pris la parole et dit à Jésus, « Seigneur, il est heureux que nous soyons ici. Si tu veux, je vais dresser trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Il parlait encore lorsque d'une nuit lumineuse, des couvrit de son ombre et de la nuit, une voix disait, « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis mon amour, écoutez-le. » En entendant cela, les disciples tombèrent la face contre terre et furent saisis d'une grande frayeur. Alors Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Ainsi Jésus les rassura par ses paroles, « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Et au moment où ils envoyèrent enseigner sa parole aux nations, il leur confirma, moi je serai avec vous jusqu'à la fin des temps. Ces paroles du Seigneur résonnent à travers les siècles, elles s'adressent aujourd'hui à nous tous aussi. Jésus nous dit, relevez-vous et ne craignez rien, je suis avec vous, on vous annonce ma parole à ceux qui sont privés du message de l'Évangile. Prions le Seigneur qu'il nous aide et nous guide pour annoncer sa parole. Car il nous a enseigné que le ciel et la terre passeront, mais ma parole ne passera pas. Cette parole est vérité. Le Seigneur agit et sa parole touche les cœurs. Prions pour que le message de l'Évangile soit entendu par toutes les nations. Prions pour que les guerres soient remplacées par la paix. C'est cette paix que le Seigneur nous a laissée. Et prions pour que la parole du Seigneur touche ses peuples, que l'amour qu'il nous a enseigné bannis les cœurs et efface toute trace de haine. Au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen.